Rendez-vous.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre Énervé du soir, le magazine de la double bonne soirée. Elle commence à 18h, une sorte d'avant-première comme ça, sur franceinter.fr et en podcast. Et puis ça se reproduit de 22h à minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, Laszlo Nemes est notre invité. Le fils de Saul, Oscar du meilleur film étranger en 2016, c'est lui. Il revient avec Sunset, sorti en salle mercredi prochain. On est en 1913 à Budapest, portrait d'une femme filmée de dos sur la nuque, où les prémices d'un monde qui va basculer dans la Première Guerre mondiale. Laszlo Nemes, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, une activiste de l'art contemporain, Nathalie Obadia, galeriste à Paris, galeriste à Bruxelles. Elle signe Géopolitique de l'art contemporain au programme Soft Power. Jeff Koons, Pinault, Arnaud, galerie, foire, collectionneur. L'art est une guerre avec ses vaincus, la France, ses vainqueurs, les États-Unis, ses outsiders, la Chine, le continent africain, les à côté de la plaque, la Russie ou même le Japon. Et au milieu, c'est vous, Nathalie Obadia, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes jeudi, c'est le jour des nouveautés nouvelles avec notre diseuse de bonne aventure musicale, Marion Guilbeault.
Avec une voix, celle de l'allemand Jungstotter, une folie, celle de Maud Octalin et un retour, celui des Stray Cats.
Et dans le Énervé la suite, encore de l'art, mais clandestin ce soir. Et ça se passe où, Christophe Boursier?
Alors c'est tellement clandestin que je ne vous dirai pas le nom des invités car ils sont clandestins, donc, vous voyez. Donc je vous conseille d'écouter ce soir à partir de 23h, vous allez découvrir des invités, mais qui sont évidemment tous avec des lunettes noires et des chapeaux visés sur la tête, puisque le sujet c'est « Mais où est l'art clandestin ?» Où il est, en fait? Dans les squats d'artistes, dans les sous-sols parisiens ou ailleurs? Mystère.
Très bien, réponse à votre tout à l'heure. Alors, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Plateau Arty, ce soir avec vous deux, Laszlo Nemes pour la sortie de votre nouveau film Sunset, et vous Nathalie Obadia, vous signez Géopolitique de l'art contemporain. Laszlo Nemes, et peut dire si on vous attendait après Le Fils de Saul, Grand Prix à Cannes en 2015, Golden Globe 2016, Oscar du meilleur film en langues étrangères 2016, mercredi prochain sortie de votre deuxième film Sunset. Il y a une pression quand on sort un second film après un tel succès?
Oui, pas mal de pression, je crois, surtout après avoir eu avoir fait beaucoup de répercussions dans beaucoup de pays, donc je crois que ça a quand même été une sorte de traumatisme positif quelque part.
Et en Hongrie, ça s'est passé comment pour le film?
Lequel?
Le Fils de Saul.
La Hongrie, il a très bien marché. Après les nominations aux Oscars, il a fait 300 000 entrées, ce qui pour un pays de 10 millions d'habitants.
Ah, c'est plutôt pas mal.
Oui, mais avant, il y avait 50 000 spectateurs. Donc ouais, ça a quand même
l'effet
beaucoup,
Oscar a permis d'élever le débat. Vous aviez vu le film, Nathalie Obadia?
Oui, bien sûr. Oui, donc je suis très heureuse de partager l'antenne avec vous. Et c'était un film qui m'avait beaucoup marqué. J'ai trouvé que c'était plein d'humanité, une réflexion effectivement sur le rôle de chacun dans des conditions, on va dire, extrêmes. Et une question d'ailleurs que chacun de nous pouvait se poser sur justement la place des sonneurs-commandos dans les camps de concentration.
Dans les camps de concentration, exactement. Quel a été l'impact de ce film en Hongrie, notamment sur l'antisémitisme, par exemple, Laszlo Nemes?
L'antisémitisme se porte toujours très bien. Hein je pense que quand même le film a eu des effets dans la société. Les gens ont commencé à parler.
Ah oui, vous avez vu ça.
Mais je ne me fais pas d'illusions. Un film ne va pas changer les choses si elles sont profondément ancrées dans la société.
Mais ça a pu libérer la parole.
Ça, je pense que ça a contribué à ce qu'il y ait une discussion sur le rôle notamment des Hongrois dans la Shoah ou des choses comme ça. Oui.
Même au niveau du gouvernement, ça a eu un impact?
Je pense que le gouvernement reste à distance de ce sujet. Ils sont contents de rester à distance.
Aujourd'hui, Sunset, un film qui annonce la Première Guerre mondiale à travers le parcours d'une femme. Quel a été l'élément déclencheur pour un tel film?
J'ai toujours voulu faire un film sur la naissance du XXe siècle. C'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. Et quand j'étais adolescent, j'avais encore une grand-mère qui me parlait du siècle, de sa vie. Avant la Seconde Guerre mondiale, pendant et après, elle était très marquée dans sa chair par l'histoire du siècle. C'est quelque chose qui m'a été, je crois, transmis Donc, je crois que le monde du tournant du siècle était plein de promesses. Et l'Autriche-Hongrie, notamment, d'où je viens, est un empire de plein de nationalités, de religions, et c'était un mélange incroyable. Et aussi, au début du siècle, un bouillonnement d'idées et de culture et de la psychanalyse née entre Budapest et Vienne. Et donc, pourtant, quelques années après, ce monde s'est autodétruit. Donc, justement, je voulais m'interroger à travers le destin d'une femme, comment les choses invisibles au sein d'une civilisation, alors que cette civilisation peut se trouver au sommet, comment ces choses invisibles sont à l'œuvre pour la détruire.
Bien sûr, on peut regarder ce film à l'aune de ce qui peut se passer aujourd'hui. Vous avez appris le français où ?
J'ai grandi à Paris à partir de l'âge de 12 ans.
Ah bon ?
Je suis un immigré.
À partir de l'âge de 12 ans ?
Oui.
Votre père était réalisateur ?
Oui, mes parents ont divorcé.
D'accord.
Et donc ma mère s'est remariée en France et je suis venu avec elle. Je suis un immigré.
J'étais
de première génération.
De première génération. D'où ce français impeccable.
J'étais sûr que
vous me posiez la question.
On en a parlé.
Nathalie Obadia. Ah oui, d'accord, pour savoir. Nathalie Obadia, on va parler géopolitique de l'art contemporain tout à l'heure. Je sais que vous revenez de New York. Vacances ou travail ?
Travail, c'était l'art Morichaud, la foire américaine. J'ai américaine, elle est vraiment très ancrée dans la sphère américaine. Elle n'a pas cette aura que Art Basel peut avoir à Miami, justement, en attirant aussi tous les acteurs d'Amérique latine, notamment. Voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion, bien entendu, d'aller voir les expositions dans les musées. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que nous avons une offre à Paris absolument extraordinaire
qu'il n'y a absolument pas.
Qu'il n'y a pas du tout. Alors, Londres, il y a quand même des bonnes expositions. Mais là, à New York, j'étais vraiment déçue. Autant à Paris, malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les visiter. Et à New York, bon, il y avait l'exposition de Warhol, qui était un petit peu décevante parce que le Whitney ne lui a consacré qu'un étage. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu étrange.
Oui.
Et puis, alors, surtout, ce qui est très surprenant aujourd'hui, c'est que notamment, Ahmed Breuer, donc, est l'ancien Whitney en haut de la ville, une exposition de Fontana. Mais cette exposition était peut-être deux fois plus petite que la précédente qui avait été à la galerie Gagosian. Et ça, c'est aussi une chose dont on se rend compte, c'est que parfois des expositions de musées sont plus petites que
les expositions de galeries.
De galeries, et non seulement en termes de grandeur, mais même de qualité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez surprenant à remarquer aux États-Unis.
Vous êtes galerie, musée de votre côté ? Vous qui créez des dispositifs très particuliers, on va y revenir pour le cinéma, la Slonimès.
J'aime beaucoup les musées, je peux pas prendre trop de choses en même temps, donc en général, je veux voir un tableau et je reste avec ce tableau-là.
C'est parfait.
Non, pas forcément, mais en tout cas, je peux pas prendre trop de choses en même temps.
Pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé des sons qui vous ont marqué, des sons qui vous ont construit. Il est parisien le premier pour vous, la Slonimès. Il est parisien et vintage.
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai. Alors c'est quoi qu'on entend ?
C'est le métro parisien, ouais. Je crois. Ça,
mais il y a pas mal d'années.
Quand j'avais 12 ans, il y a pas mal d'années, c'est là où je suis venu à Paris. Et pour moi, c'était tout un nouveau monde qui s'est ouvert. Et c'est vrai que j'ai dû prendre le métro pas mal de fois, parfois 4 fois par jour, pour aller dans mon collège non francophone, parce que je parlais pas du tout français. Donc je me souviens de ces voyages encore dans les anciennes rames qui rappellent les années 50, 60 de Paris. Donc il y a un côté mythique, je crois.
Première classe, seconde classe,
je crois que c'était fin de cette
période. Ah, c'était la fin.
C'était juste d'accord. Moment, ouais. Mais c'était quelque chose de magique.
Un son de transport aussi pour vous, en fait,
alors,
Nathalie Obadia.
Juste pour dire que moi, j'ai le souvenir du son du métro à Budapest, il y a une quinzaine d'années, qui est magnifique. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas s'il existe toujours, mais je me souviens que c'était magique.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier, vous savez ?
Non, je ne le trouvais pas du tout magique, le métro de Budapest, mais c'est là où on voit que la subjectivité...
Oui, exactement.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier ?
Mais c'est une espèce de petit de son, comme une espèce de cloche, et c'est unique.
Un son de transport pour vous, Nathalie Obadia. « vous n'êtes pas concerté, mais manifestement, il y a quelque chose autour des transports. Qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute un klaxon, enfin un bruit d'un train américain, et celui-ci, c'était entre Portland et Seattle. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça m'a replongé dans mon enfance aussi, où j'ai été baignée par les westerns que je regardais avec mon père et ma sœur, et notamment par cette série qui s'appelait Les Mystères de l'Ouest.
Ouais, avec voilà. Ce train et ces wagons.
Exactement. Et ça qui a vraiment marqué une partie de mon enfance. Et quand j'ai entendu ce bruit de train que je prends assez souvent aux États-Unis, parce que je circule assez souvent l'été pour visiter les musées hors de New York, justement hors des grandes cités. Voilà, c'est pour moi à chaque fois un très beau souvenir.
Quand on va à la DIA Foundation ?
À la DIA, mais non, parce qu'il faut que ce soit quand même c'est presque urbain le train qui mène de New York à la DIA Foundation. C'est plutôt les trains dans l'Amérique profonde, en Alabama.
Vous allez visiter des musées absolument partout. Ouais.
Partout.
Un son de cinéma pour vous, Laszlo Nemes. Là encore, un son vintage. Vous êtes de notre époque ou quoi ? Qu'est-ce qu'on entend ?
Je crois que c'est un projecteur de film.
35 mm.
Ouais. Bah, écoutez, moi je pense que le cinéma est inséparable de la pellicule et que le cinéma n'aurait pas dû, pour faire plaisir à quelques fabricants de projecteurs, virer les projecteurs 35 mm parce que je pense que c'est la projection et le film permettent une expérience physiologique et on est dans l'obscurité. La moitié du temps, quand on regarde un film en pellicule. Et ça ne peut pas être remplacé par
le numérique.
Par le numérique.
Ouais. Vous en trouvez encore de la pellicule ?
Bah, j'ai fait mon film en 35. Je projette. Le distributeur français aussi aura au moins une copie 35 sur Paris. Donc, on est content de pouvoir.
Ça demande des budgets quand même. Il faut pas se tromper. On va faire.
Oui, mais je
on
pense
peut pas
que
faire des milliers de prises.
J'ai pas le temps d'expliquer, mais je pense que c'est le processus de décision est ce qui est le plus important dans réalisation. Et si la pellicule nous oblige. À prendre des décisions avant et pendant le tournage et pas les repousser au montage, et c'est quelque chose que vous ressentez sur le plateau quand vous tournez en film, c'est-à-dire il y a une répétition, il y a un tournage, et les choses ne sont pas tout n'est pas mélangé et on fait pas 600 heures de rush
comme on peut le faire avec le numérique.
Voilà.
Je vous vois prendre des notes, Nathalie Obadia.
Oui.
J'ai l'impression d'être prof.
Il n'y a pas du tout. Non.
Un son de musique pour vous. Une explication.
Voilà, c'est le groupe que mon fils a créé à Londres.
Ah, voilà. Et mon équipe a raison. Il y a un lien personnel, très personnel, c'est
voilà.
Ça.
Avec cette chanteuse qui est la fiancée d'ailleurs de mon fils aujourd'hui. Donc voilà,
Et ça marche pour eux, le nom
et
du
ça,
groupe.
Voilà, ça marche tout à fait pour eux. Je suis très heureuse parce qu'il a choisi une voix qui n'est pas facile. Vous savez, quand on dit aux parents, marchand de tableau. Voilà, mais artistes, on dit oh, ça va pas être évident. Mais nous nous sommes fait confiance. Il est voilà travailleur, ambitieux et avec sa compagne et le groupe. Donc voilà, je suis très content et très fier.
Eh ben, vous n'êtes pas leur meilleur attaché de presse. Quel est le nom du groupe ?
Indigo Face.
Ben, vous voyez, c'est moi qui vous ai demandé. On va vous retrouver tous dans quelques instants, tout de suite. Eh bien, une autre musique, celle d'Hubert Lenoir, un jeune Québécois présenté comme le Xavier Dolan de la pop, recommencé dans le Énervé.
Touche mes mains, mes mains qui touchent ton corps.
recommencé par Hubert Lenoir qui sera à la Maroquinerie à Paris le 17 avril, au Printemps de Bourges le 20 avril, programmation Nuit Blanche de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Laurent Goumard.
Ez a ház még most is itt áll. Pedig rég eltűnt körülötte minden.
Sur France Inter.
Pas de crainte, le film est surtitré. Ça, c'est pour quand on est en salle. Plateau Sunset avec vous, Laszlo Nemes. Deuxième film après Le Fils de Saul, Oscar en 2016. On en parlait tout à l'heure. Mmh. Sunset, portrait d'une femme à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. On va la présenter ensemble. Nationalité.
Elle est à l'aube de la Première Guerre mondiale.
De la Première Guerre mondiale, oui. Nationalité.
Elle
en fait, sa fille d'identité.
D'Autriche-Hongrie.
Ouais.
Incroyable mélange de nationalité, d'ailleurs. Et de langue. J'ai voulu recréer cette Babel.
Cette Babel.
Aussi de langue et cette confusion. C'est notamment pour les, je pense, pour les spectateurs français, ce sera la confusion du.
Total.
je voulais dire la confusion de ce monde qui se présente au personnage principal. Et c'est dans ce chaos qu'elle doit. Qu'elle veut retrouver son frère qui donnerait une réponse à toute cette confusion.
Nom, prénom, parce que ça dit quelque chose aussi du cinéma.
Le nom est Leiter et son prénom est Iris.
Ça dit quelque chose de l'ordre du regard.
Je pense que oui.
Je pense que oui aussi. Vous l'avez choisi exprès, j'imagine.
Bah, quand vous faites un film, il faut prendre quand même des noms qui ont une signification.
Situation familiale.
Célibataire.
Ouais. Orpheline.
Oui, orpheline. Et elle a un frère dont elle ne connaissait pas l'existence.
Et situation professionnelle.
Modiste. Donc elle fait des chapeaux.
Alors le parcours, le film, c'est le parcours de cette jeune femme orpheline qui revient dans la boutique qui avait été tenue par ses parents à l'époque, un magasin de chapeaux très connu. Que veut-elle y faire quand elle y rencontre Oscar Brill, qui est le nouveau propriétaire? Quelle est son ambition au départ du film?
De travailler dans cette chapellerie qui appartenait à ses parents et ainsi se reconnecter, retrouver ses origines, ce qu'elle est, sa famille.
Et notamment, elle va mener une enquête autour de ce frère disparu, dont elle apprend l'existence. Tourner, faire un film dans une boutique de chapeaux, ça vous permettait de dire quoi? Parce que c'est très intriguant, ce choix.
C'est un monde qui a beaucoup d'illusions, le monde de l'avant Première Guerre mondiale. Un monde qui est très sophistiqué, avec beaucoup de codes. Et je crois que ces conventions qui étaient extrêmement importantes, de temps en temps extrêmement rigides, mais qui permettaient aux personnes de se retrouver dans ce monde. Et les chapeaux faisaient partie aussi de ces systèmes de codes qu'on n'a plus aujourd'hui, la compréhension de ce monde-là. Mais pourtant, il y a beaucoup d'illusions, je crois. Ce monde avait beaucoup d'illusions sur ce qui pouvait créer sur cette civilisation qui était en train de créer tant de choses et pourtant ce monde était aveugle aux forces à l'intérieur de lui-même.
Alors aveugle, un monde aveugle avec une héroïne qui s'appelle Iris, on voit à peu près où vous voulez en venir. Mais juste une chose aussi sur le dispositif que vous avez adopté et qui rappelle un peu le Fils de Saul, c'est-à-dire la caméra, une sorte de caméra subjective, là cette fois-ci, non pas posée mais toujours systématiquement derrière la nuque d'Iris que vous filmez, presque systématiquement.
Je pense que c'est, on est autour du personnage principal,
on est avec elle.
On est avec elle, on est aussi obstrué, notre vision est obstruée par, notamment par elle, mais aussi par d'autres choses. Donc c'est une, et on est entre ouverture et fermeture, on est entre peut-être éveil et rêve. Je crois que aujourd'hui, le cinéma dit de plus en plus que nous sommes presque des dieux. On a une vision divine avec la multiplication des plans, avec une vision toujours surplombante. C'est quelque chose qui revient dans le cinéma de plus en plus, comme une retransmission de matchs de football où la caméra est toujours au bon moment, au bon endroit. Moi, au contraire, je voulais passer par le spectateur, faire confiance au spectateur en faisant confiance à son imagination.
Oui, parce que la caméra n'est pas au bon endroit.
La caméra n'est pas toujours au bon endroit. On n'est pas dans notre vie, on n'est pas toujours au bon endroit, au bon moment. Et voilà, et c'est, je pense que c'est l'existence humaine qui est beaucoup plus limitée que ce qu'on veut bien nous faire croire.
Quand vous étiez aux États-Unis, que vous avez reçu cet Oscar pour Le Fils de Saul, est-ce que vous avez rencontré des réalisateurs qui avaient vu votre film et qui vous en ont parlé, Aston Hemes?
Beaucoup, oui. Vous voulez parler de qui?
Bah, je ne sais pas. Non. Qui vous a intéressé d'ailleurs dans ces
quand j'ai rencontré Spielberg, je l'ai revu plusieurs fois. C'était quelque chose de très émouvant puisqu'il a rendu hommage à mon film. J'étais un peu irréel, je dois dire, sachant que j'ai grandi avec Indiana Jones et des films E.T. Donc c'était quand même un grand moment pour moi.
En parlant de cinéma, vous vous êtes construit contre le cinéma de votre père ou avec, qui était réalisateur?
Nos chemins se sont séparés à un moment et donc du coup, je sais pas, c'est une question pour mon psychologue.
Non, pas du tout, c'est une question pour vous, savoir quelle est votre relation au cinéma de votre père. Vous pouvez passer à la réalisation aussi, c'est pas anodin d'avoir choisi ça.
J'ai eu par exemple des figures paternelles comme Bellatar dans ma carrière.
Donc vous avez été l'assistant, hein.
J'ai été l'assistant et je crois aussi à cette transmission entre le maître et et l'apprenti. Ce sont quelque chose, à mon avis, qui disparaissent un peu aujourd'hui. On fait plus des écoles de cinéma que ce type de parcours. Mais donc c'est plutôt par rapport au cinéma de Bellatar, par exemple, que je me suis
construit.
Ouais.
En parlant de construction, vous avez construit, ça c'est assez incroyable, normalement quand on fait des films d'époque, des films en costume, on est dans des studios. Vous avez choisi le contraire, c'est-à-dire vous avez construit vos décors dans les rues de Budapest.
Oui. C'est un mélange intéressant. C'est-à-dire, Budapest était une ville assez meurtrie par le siècle. On a trouvé un endroit, un quartier qui était où les immeubles étaient bien pour notre film, et on a construit à l'intérieur de ces immeubles sur un terrain vague la chapellerie Leiter.
Qu'est-ce que c'est devenu tout ça?
Les décors.
Ouais.
Détruits.
Détruits après.
Oui.
Ça a créé quelque chose dans la ville, de savoir.
Crois, oui. Ça a créé un microcosme. Quand on était dans ou devant la chapellerie, on avait l'impression d'être transporté dans le Budapest de 1910.
Il y a une lumière très particulière aussi pour ce film. Je sais que vous travaillez avec la pellicule, on en a parlé. Qu'est-ce que vous avez regardé comme film ou comme image pour trouver cette lumière particulière avec votre chef opérateur, Aston Hemes?
On a regardé pas mal de films, mais on a regardé Barry Lyndon, par exemple, de Kubrick. Hein? On a regardé McCabe and Mrs. Miller de Robert Altman. On avait aussi des tableaux. On avait Hopper, que j'aime beaucoup. Des photos, des photographes du début du siècle, des films du début du siècle. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont entrées dans ce travail.
Est-ce que ça vous intéresse de vous attaquer plus frontalement à l'actualité? Il y avait eu Le Fils de Saul, donc sur un moment précis de l'histoire. Aujourd'hui, on retourne en 1913. Est-ce que l'actualité frontalement, c'est quelque chose qui vous intéresserait de filmer, Aston Hemes?
Bah, déjà, je pense que quand on fait un film, même sur une période historique, on fait quand même un film sur.
Bah, bien sûr, ça éclaire l'époque actuelle, ça, oui. On va en parler, bien sûr.
Par exemple, sur la mort des civilisations, c'est pas forcément quelque chose c'est quelque chose qui m'intéresse, et je trouve que c'est pas tellement loin de l'actualité, d'une certaine manière. Si on fait un film aujourd'hui, dans 20 ans, ce sera un film sur le passé, donc c'est très relatif.
Le film se finit sur une Europe dans le chaos. Comment vous regardez les prochaines élections européennes?
Ah, il y a des élections européennes. Bah, écoutez, pour moi, l'Autriche-Hongrie du début du siècle était une espèce d'idée de l'Europe, un prototype de l'Europe, avec ce mélange incroyable de peuples et de religions et de nationalités. Et en détruisant ça, et avec la Seconde Guerre mondiale, on a détruit une idée de l'Europe qui était là. Et qui était là, et c'était pas qu'une idée, c'était une présence. Et donc je ne peux pas être très optimiste parce que c'est toujours plus difficile de recréer ça d'une manière artificielle. J'espère que voilà, je peux juste avoir de l'espérance. Le problème, c'est que aussi, on a besoin en tant que artiste ou cinéaste de faire réfléchir les gens. Et je crois que le cinéma est pas que le cinéma, mais le cinéma doit être là pour nous faire réfléchir et pas toujours nous donner ce qu'on attend forcément.
La réflexion débutera mercredi prochain avec Sunset. Vous restez avec nous, Nathalie Obadia, on va parler d'art contemporain et d'art plus largement dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose de retrouver une artiste contemporaine, plasticienne conceptuelle, performeuse aussi, Yoko Ono. En 73, elle produit seule un disque féministe dédié, je la cite, aux sœurs qui sont mortes dans la douleur et la tristesse de ne pouvoir survivre dans une société masculine. Woman Power dans le NRV.
Baby, what we need is a power of trust that it's coming. You've heard of law of selection, well, that's how we're gonna do it, baby. We allow men who wanna join us, and the rest can just stay.
Woman Power, signé Yoko Ono, la programmation MeToo avant l'heure de Jean-Baptiste Dibert.
C'est un bouquet un peu embarrassant, France Inter. 12 mètres de haut, 33 tonnes en bronze et en aluminium.
D'abord, je me méfie des cadeaux. Les cadeaux, on les paye toujours, d'une certaine manière.
Cette œuvre est présentée comme un hommage aux victimes des attentats qui ont eu lieu à Paris, mais c'est plutôt de l'autopromotion. En réalité, c'est une publicité, et une publicité même pas pour un artiste, mais pour une marque, puisque Jeff Koons, aujourd'hui, c'est une marque d'hyperluxe.
Le nouveau rendez-vous.
Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Nous parlons là, ensemble en Europe, de centaines de milliers d'objets. C'est peut-être des musées entiers, comme ici au musée du Quai Branly, qui seraient totalement dépouillés de leur collection.
Laurent Goumard.
Deux sons pour ouvrir ce plateau avec vous, Nathalie Obadia, galeriste à Bruxelles, galerie à Paris. Vous signez Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Cavalier Bleu. Ces deux sons, ils racontent quoi ? D'un côté, Jeff Koons à Paris, de l'autre, la restitution donc des œuvres en Afrique.
Eh ben, il raconte, je crois, un petit peu le cœur du sujet de mon livre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au-delà du prix du marché, il y a des enjeux économiques et politiques qui sont très importants et dont on ne mesure pas l'importance au départ. Alors, on m'a demandé pourquoi tu fais un livre comme ça. Ben, j'ai dit parce que je me suis toujours posé la question. Pourquoi suis-je en telle foire ? Pourquoi dois-je voyager dans tel pays ou exposer un artiste de telle nationalité ? Pourquoi à Venise, pendant la Biennale, les États-Unis choisissent tel artiste et pas un autre ? Ou le commissaire général de l'exposition ? Donc tout ça, on s'aperçoit que ce sont des raisons à la fois tout à fait politiques et qui ont leur importance. Et donc là, évidemment, vous avez repris deux exemples qui sont le Jeff Koons qui devait être installé dans un endroit absolument stratégique de Paris et qui était, on peut le dire, un acte plus ou moins inconscient, mais enfin un acte d'un artiste américain qui est un porte-drapeau de son pays en France, voilà, et devait-on l'accepter ou pas. De l'autre côté, il y a aujourd'hui ce débat sur les restitutions des œuvres ou d'objets rituels en Afrique. Donc d'abord, on se demande pourquoi simplement l'Afrique. Hein. Il y a aussi le problème peut se poser aussi en Asie, en Amérique latine. Donc bon, déjà, le fait de se concentrer que sur un continent, bien entendu que nous avons colonisé, c'est quand même un peu aussi restrictif. Donc là aussi, on s'aperçoit que les discours présidentiels, enfin même de campagne du président Macron, montraient qu'il y avait cet intérêt pour des raisons qui étaient aussi politiques.
Pour des raisons politiques. Alors, avant d'entrer dans la géopolitique, quelques mots pour vous situer. L'art arrive comment dans votre vie ? C'est une histoire familiale au départ ?
Oui. Oui, tout à fait. J'avais des parents qui étaient amateurs et qui sont devenus collectionneurs. Des vrais collectionneurs, c'est-à-dire qu'ils achetaient avant de se demander comment ils pouvaient les tableaux, les payer. Enfin, ils ont toujours payé, hein, non. où nous pouvions mettre les tableaux. Et voilà, donc j'ai avec eux déambulé dans les musées. À l'époque, les musées d'art contemporain en France étaient rares. Donc Pompidou n'existait toujours pas. Donc il fallait aller au Stedelijk à Amsterdam. Donc j'ai des souvenirs de cabanes, de Kinols. On allait à l'époque, voilà, la collection Ludwig, qui était encore à Aix-la-Chapelle. Et voilà, et j'ai vu après mes parents dire s'émanciper intellectuellement par rapport à leur milieu. Ouais. Mes parents, au départ, étaient enseignants et mon père a rapidement écrit des livres de lecture, de grammaire, qui ont eu un grand succès. Et voilà, donc c'est entre cette nouvelle vie et le fait de collectionner, de visiter les musées, donc je les ai vus s'ouvrir. Et on avait des artistes à la maison, Ranciac, Lazen, puis après, bon, quand les livres marchaient un peu plus, ils sont allés chez Sonaben, puis ils ont acheté au début des années 70, Warhol, Liechtenstein.
Donc aux États-Unis, ouais.
Non, à Paris, il y avait une galerie à rue Mazarine, justement, il y en a Sonaben. Donc, je me suis dit, c'est vrai que c'est un monde très intéressant, puisque ça touche à la fois à l'art, on peut gagner sa vie en étant galeriste, on peut rencontrer des gens absolument passionnants. Et donc très tôt, dès l'âge de 14-15 ans, j'ai voulu faire ce métier.
Faire ce métier. Vous ouvrez votre propre galerie dans les années 90. C'était quoi le contexte ?
J'ouvre ma galerie en 1993 et j'avais travaillé 4 ans auparavant chez Daniel Templon. Donc j'avais vécu le pic de cette... voilà, de cette période où l'art contemporain avait déjà un grand succès, et puis c'était la crise. Donc tout le monde me disait de ne pas ouvrir la galerie. Mais je le faisais parce que j'avais vraiment envie. Et donc j'ai pu ouvrir dans une petite galerie de 40 mètres carrés dans le Marais, dans le Haut Marais. Et on va dire que j'ai tout de suite vendu parce que j'avais pas les moyens de perdre. Donc il fallait vraiment.
C'est ça, les bons galeristes. C'est vrai.
Voilà.
Oui, c'est pas les fils à papa.
Non, bah, enfin, disons, vous fiez à papa. Enfin, ouais, c'est vrai que il fallait de toute façon que tout de suite je vende. Et bon, j'ai tout de suite, travaillé avec Carole Benzaken.
Donc
avec
de la peinture. À une époque.
Oui, alors c'est un peu pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai ouvert en 93, pendant 4-5 ans, j'ai été, on va dire, assez largement snobée par les galeries, les jeunes galeries de ma génération, et dont peu d'ailleurs sont encore là aujourd'hui, parce que justement je n'étais pas dans cette tendance qui était à l'époque dominée par l'esthétique relationnelle. Donc théorisée par Nicolas Bourriaud, où il fallait justement montrer des œuvres extrêmement conceptuelles, si vous voulez, moi c'était pas du tout par réaction, c'était mon choix. Et puis en plus c'est vrai qu'il y avait certains de ces artistes qui n'étaient pas sollicités par d'autres galeries, puisqu'il fallait pas montrer de la peinture.
À cette époque-là, vous êtes galeriste, marchande, une très bonne marchande. Vous assumez d'ailleurs la position, le travail que ça demande. Et il paraît, j'ai lu dans un article, que chaque année, vous regardez la liste des fortunes et que vous regardez qui ne sont pas encore vos clients. C'est vrai ?
C'est avec l'ensemble de la galerie que nous le faisons. Mais alors ça, c'est une vieille habitude. Hein. À l'époque, où mon père était directeur de l'école normale dans Loire-Atlantique. Et je me souviens, il y avait à l'époque, c'était l'extension qui n'existe plus. Il y avait la liste justement des grandes fortunes. Donc j'ai toujours regardé ça enfant, puis après à la bibliothèque de Sciences Po. J'ai épluché l'Ouzou, parce que on en parlait avec vous, parce que nous avons fait la même école. Donc voilà, c'est une vieille habitude. Et puis après, on se prend au jeu. Et c'est vrai qu'à la galerie, chaque année, on achète plusieurs exemplaires de Chaland. Et c'est un jeu. Bon, voilà. À qui n'avons-nous pas acheté?
N'avons pas vendu.
Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai une de mes collaboratrices qui a vendu une œuvre importante à un collectionneur qu'elle ne connaissait pas. Et la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit son nom. Elle me dit, mais vous savez, il est tel numéro dans le classement. J'ai trouvé ça assez amusant.
Alors aujourd'hui, vous signez Géopolitique de l'art contemporain. Ça revient sur une histoire perdue par la France à l'époque, à partir des années 40, dans le monde de l'art. Une guerre qui a été menée sciemment par les États-Unis, collectionneurs, institutions et même la presse. Le livre raconte aussi l'histoire des USA avec l'Europe. Une Allemagne qui arrive à renaître après la guerre, à renaître même au niveau de l'art, qui est une de ses portes d'entrée pour pouvoir être visible au monde, qui va trouver sa place dans le monde de l'art. L'Angleterre, beaucoup plus tard, dans les années 80-90, avec un collectionneur venu de la pub, Saatchi, proche de Thatcher, qui lui va rendre visible la jeune génération anglaise sur le plan, là encore, international, alors que la France a toujours été, pas en retard, mais hors jeu.
C'est vrai qu'on s'aperçoit que ce triangle, finalement, c'est un triangle qui s'est formé entre les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et nous sommes en dessous. Alors déjà parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu choqués, nous on dominait, on avait quand même le cubisme, le surréalisme, et tout d'un coup en 45 la donne a changé. Nous étions ni perdants ni gagnants, donc on n'avait pas cette volonté comme l'Allemagne de renaître, de se recréer une nouvelle image par rapport à une période quand même très très compliquée. Donc on était un petit peu entre les deux, on est resté sur notre position, on n'a pas compris à un moment donné.
Il y avait même un refus des États-Unis. Vous disiez que le marché à ce moment-là, non pas le marché d'ailleurs, mais le monde de l'art en France était dominé par des intellectuels et des artistes proches des idées communistes et qui ignoraient volontairement les États-Unis et même
tout
au niveau
fait.
Des galeries.
Oui, non, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon la crainte venait plus des États-Unis que de l'URSS. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le libéralisme, c'est ce que représentaient les États-Unis qui se déferlaient évidemment avec... Alors encore les abstraits expressionnistes, c'était très intellectuel, il n'y avait pas de contenu, si vous voulez, qui rappelait l'Amérique. Mais avec effectivement l'arrivée du pop art, de Warhol,
avec même Rosenquist,
là on a vu à un moment donné une Amérique visuelle très triomphante et qui à un moment donné, en plus si vous voulez, c'est ce pop art qui a aussi marginalisé une école comme les nouveaux réalistes, donc on était aussi très vexés par rapport à ça. Donc on s'est renfermés et on s'est marginalisé. C'est vrai qu'il y avait des marchands à l'époque français qui n'ont pas... Alors peut-être que vous me direz, ils ont montré ce qu'ils voulaient, mais des galeries qui étaient des porte-drapeaux, comme MAG, par exemple.
La galerie MAG,
La galerie MAG aurait pu montrer plus d'Américains. Elle avait les moyens de le faire, d'ailleurs. Des marchands comme Samuel Coutts se sont servis de la galerie MAG pour venir exposer des Américains. Et ils auraient dû continuer à le faire. Bon, alors il y a eu quelques têtes chercheuses, comme la galerie Arnault, même Daniel Cordier, justement, qui a fait des expositions, même de Rauschenberg. Mais après... ce sont des Américains comme Sonnabend qui l'ont fait. Et puis il a fallu attendre beaucoup plus longtemps pour que des galeries françaises montrent l'art américain. Donc, enfin, il n'y avait pas que l'art américain, mais c'est un peu la même chose avec l'art allemand. On s'est un peu enfermé, voilà.
Je vous voyais sourire à cette histoire, la Slonimès.
Je connaissais pas du tout cette...
Vous allez voir la suite, parce qu'en fait, la France va retrouver une partie de sa puissance sur la scène mondiale en deux temps. D'abord, dans les années 90, avec les grands collectionneurs qui sont toujours vilipendés par la presse, encore même aujourd'hui. François Pinault d'abord, Bernard Arnault ensuite, mais c'est une France qui va triompher sur le plan international avec ses collectionneurs, mais pour autant, ils n'achètent pas forcément des Français, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre visibles sur la scène internationale au départ en achetant des étrangers.
Alors, ils achètent des étrangers, disons qu'ils vont très largement se positionner avec des artistes étrangers, mais ils achètent des artistes français. Simplement, c'est je dirais d'une certaine façon, c'est ce qu'on voudrait voir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voudrait voir, je le dis... plus d'artistes français qui font des expositions personnelles dans la collection de Pinault à Venise, parce que c'est quand même un porte-drapeau très important. C'est un des collectionneurs
les plus importants.
Il y a eu Marcel Reiss, mais il a plus de 80 ans, et Marcel Reiss a un marché qui est un peu compliqué, surtout reconnu pour ses œuvres des années 60. Voilà. Bon. Après, il y a des expositions de groupe dans lesquelles il insère des artistes français, mais cet été, il va y avoir le fabuleux peintre Teumans. Bon, voilà, on voudrait voir d'autres artistes français. La même chose pour la collection de la Fondation Arnault, qui est moins ancienne. Mais à part Daniel Buren, voilà, qui a, on va dire,
rhabillé
l'espace, enfin, l'architecture de Guéry. Pour le moment, on voit plutôt des monographies, soit de grandes collections étrangères, soit on a vu Basquiat, qui est arrivé ici, mais qui est déjà une grande star américaine.
Ce qu'on apprend aussi dans le livre et qui est plutôt intéressant, c'est les règles qui changent actuellement, et on en voit même les débats qui arrivent aujourd'hui en France. Vous vous rappelez que Léo Castelli à New York, de 57 à 97, n'a montré que 3 femmes artistes et aucun artiste issu des minorités ethniques. Aujourd'hui, c'est impensable.
Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus impensable qu'on va presque, on va dire, d'une façon très loin, puisque en revenant de New York, donc forcément sur une foire, vous savez, on vit un peu en hétérotopie, là, on est un peu en basse-clos, donc on vit les uns avec les autres et on se parle. Et j'ai un ou deux collègues qui m'ont dit, écoute, il faut vraiment que je trouve une femme ou il faut que je trouve un artiste afro-américain. Mais c'est même pas, c'est-à-dire que il est bon artiste ou il n'est pas bon artiste, ou elle est bonne artiste. Enfin, donc ça, c'est vraiment un vrai souci. Et d'ailleurs, je le dis dans le livre, il y a eu cet été la galerie Hauser & Wirth, qui est une des plus importantes au monde aujourd'hui, pris dans son écurie un artiste noir américain, et elle a envoyé ce communiqué cet été dans lequel elle disait qu'elle était très très au-delà, si vous voulez, de la défense justement de l'art. C'était une famille qui plutôt défendait des artistes femmes et des minorités. Donc, si vous voulez, c'est très très clair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est compliqué, il serait compliqué, on va dire, pour une galerie américaine, mais ça va être aussi
le cas aussi en France,
de se positionner avec des artistes exclusivement masculins on va dire
mâle blanc hétéro,
voilà, caucasien, enfin voilà ce que vous voulez. Bon, alors il n'y a pas les pourcentages comme aux États-Unis, mais on y arrive. Là, j'ai lu la grande revue de Sotheby's qui apparaît 2-3 fois par an. Donc il y avait un artiste justement sur aujourd'hui la puissance des artistes de couleur. C'est la couverture du magazine, et à l'intérieur vous avez des fromages comme des statistiques. Ça serait impensable chez nous, mais chez eux ça existe.
Comment vous êtes imposée sur la scène internationale, Nathalie Obadia?
En travaillant beaucoup, en ne lâchant pas le morceau, en me disant toujours que la nature a horreur du vide, qu'il faut toujours, les absents toujours tort, donc avec des tas de principes, et puis en allant toujours, en me disant toujours je suis française, mais j'ai une galerie internationale. D'ailleurs aujourd'hui, si on veut exister sur le plan international, bon, on a une nationalité, on a une culture. Moi, je pense très fortement que même si l'Europe existe, il y a une culture occidentale, mais on le voit bien avec la Chine qui essaye de montrer aussi qu'elle a cette culture chinoise qu'elle met en avant. Moi, je suis française, mais avec effectivement un positionnement international, et d'autant plus que Paris est aujourd'hui la capitale continentale, on met Londres de côté, la plus importante. C'est ici qu'il y a le meilleur maillage de galeries, de musées et de collectionneurs aussi bien puissants, même, et aujourd'hui de plus en plus de nouveaux collectionneurs.
Donc tout n'est pas perdu.
Ah non, non, du tout, du tout.
On a Teddy Obadia, on va vous retrouver tout de suite parce que je vais vous proposer le questionnaire 100% France Inter.
Et maintenant le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous, ça c'est normal.
Mais tellement rare aujourd'hui.
Donc tout de suite, rien que pour vous Nathalie Obadia, c'est le questionnaire 100% France Inter. Ce sont des questions des stars de la chaîne, des questions qui ont déjà servi. Il y a eu des réponses. Et qu'on recycle. 3 questionnaires, vous choisissez le vôtre. Le questionnaire Arpari, Frise ou Fiac?
Fiac.
Allez, c'est parti. C'est un manifestement, je crois que c'est un spécial Augustin Trapenard ce soir.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi un métier dans lequel on s'expose constamment au risque de l'échec?
Nathalie Obadia.
Parce que j'aime bien le soleil.
Quand est-ce que vous aviez compris que vous étiez intelligente, vous?
Je ne sais pas encore. Hein.
Non, si, Nathalie Obadia. Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez intelligente?
Je crois que mes parents nous ont bien soutenus, ma sœur et moi, pour faire passer un message.
Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'Amérique de Donald Trump?
Vous en revenez?
Justement, je trouve que c'est une Amérique qui est en train de complètement de se réinventer. C'est-à-dire que, parce qu'il y a Trump, il s'y passe tous les jours tous les jours sur la scène artistique. En tout cas, c'est extrêmement actif et revendicatif.
Revendicatif à quel titre, par exemple?
Par rapport, justement, à cette Amérique que Trump veut faire passer, c'est-à-dire celle d'un ancien modèle, d'une certaine manière, qui reste sur celle des missionnaires blancs issus voilà de l'Europe, et il y a donc tout un combat qui est fait de l'autre côté.
Vous pensez que Jeff Koons est un héros trumpien?
Oui, complètement, mais je me pose toujours la question de savoir s'il en est conscient ou pas.
On lui posera la question quand on le verra.
Bonjour à n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers?
Non, madame, des musiciens.
Géopolitique de l'art contemporain, c'est aux éditions...
Le Cavalier Bleu.
Tout de suite, on retrouve Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles. On va parler musique.
On reste dans l'art, on reste en Europe avec une question. Et si l'Allemagne devenait l'autre pays de la pop? Bah oui, le Brexit, l'Angleterre, et voilà, si ça se trouve, on n'aura plus rien qui viendra de l'autre côté de la Manche.
Géopolitique de la musique.
Tout c'est à parti. Fait, voilà. Alors, à l'écoute des chansons de Jungstötter, eh bien, on aurait tendance à répondre oui. Jungstötter, c'est le projet musical du chanteur Fabian Hallstötter. Alors, moi, je parle pas allemand, donc il va falloir vraiment être indulgent sur mon accent. C'est un projet qui fait la part belle à une voix très très singulière. Elle se situe dans un spectre entre celle d'Anthony and the Johnson et celle de Scott Walker. Vous voyez, c'est une espèce de voix de velours au service de chansons mélodramatiques. Alors Fabian Hallstötter ne vient pas du pays de Goethe pour rien. C'est un romantique, c'est un exalté. Il ne chante que l'amour, ses joies éphémères et ses tourments profonds. Son premier album joue la carte d'une pop de chambre très Middle Europa avec des montagnes russes émotionnelles comme on les aime.
C'est vrai que c'est proche de Scott Walker et enfin, heureusement, beaucoup moins maniéré qu'Anthony and the Johnson.
Un peu moins, en effet. Cet extrait de son premier album solo, Love Is, ça paraîtra le 17 mai, mais on peut déjà faire connaissance avec lui au Trianon à Paris le 17 avril et à Strasbourg le 19 avril. Une musique très très évocatrice, hein, très cinématographique, la Slow Nemes, vous ne trouvez pas?
Si.
Si.
Tu parles, il a mis du Schubert dans son film.
Je sais, j'ai vu la bande-annonce.
Il s'est arrêté à Schubert.
En 1913, c'est normal.
Bien sûr, bien sûr.
On poursuit avec l'Omni de la semaine. Omni pour objet musical non identifié. Et cet Omni, c'est celui de Maud Octalin. Maud Octalin, on l'avait repéré sur le précieux site de découverte musicale La Souterraine. Alors Maud Octalin, elle dit avoir passé son enfance à courir nue et à dessiner des croix de Lorraine. Et depuis 2016, elle affirme consacrer tout son temps à l'écriture, à la peinture, à la cuisine et à la prière. Alors évidemment, on pense à une petite fille.
Le tir, c'est gagnant.
Ouais, une petite fille de Brigitte Fontaine ou une cousine champenoise de Philippe Catherine. Et c'est pas le titre de son nouvel album qui va changer la donne, parce qu'il s'intitule Sainte Saucisse. Je vous fais passer la pochette.
Je vais passer Laurent, le tuyau, très sensible à l'art contemporain.
Il y a un commentaire à faire, certainement. Voilà. Il s'intitule Sainte Saucisse.
Ouais, il y a un côté Mauricio Catlan dans la présentation. Ouais.
Pas mal, hein, voilà. En 10 tubes, bien calibrés, bien secs, ça raconte des boucheries, des sauteries, des idioties. Maximum d'autodérision, bien sûr, mais avec une écriture vocale et musicale plus subtile qu'il n'y paraît. Je vous encourage donc à laisser votre tropisme vegan de côté et de goûter aux saucisses conceptuelles et transgressives de Maud Octalin.
Cette union sacrée, par mes saucissons de bonnes amies, cuites ensemble à la vapeur, chacune prend le goût de l'autre, cuites ensemble à la vapeur, chacune prend le goût.
La demande en mariage de Maud Octalin, cet extrait de son nouvel album, qui sortira demain sur le label Raté Productions. Et on finit avec un anniversaire, Laurent, celui d'un groupe culte, les Stray Cats.
Je pensais qu'ils avaient complètement disparu.
Mais pas du tout, mais pas du tout. Ils sont toujours là, ce trio new-yorkais.
Après la saucisse, la banane.
Voilà, exactement. Voilà, ce trio new-yorkais qui, à l'aube des années 80, a émigré à Londres avec une mission, ranimer la musique des pères fondateurs, le rockabilly. Objectif réussi à l'époque, à l'échelle de la planète. On garde tous cette vision de trois musiciens avec leur banane XL sur la tête, les belles guitares chromées de Brian Setzer, la contrebasse de Lee Rocker, la batterie minimale de Slim Jim Phantom, et ben en 2019, Stray Cats revient. Ils vont fêter leurs 40 ans avec un nouvel album et une tournée mondiale. Ça fait 26 ans que le groupe n'a pas enregistré ensemble, donc grosse, grosse excitation. Le disque a été réalisé à l'ancienne, à Nashville. Il sonne du coup ben, comme leur premier album, hein, pareil, vrai, naturel, organique. C'est retour vers le futur et c'est tout ce qu'on leur demande. Pour les mauvais esprits qui pensent qu'à faire du rock passé 30 ans, ça n'a pas d'allure, et ben je les invite à aller voir The Stray Cats sur scène. C'est une expérience unique. Alors bien sûr, la coiffure pompadour de Brian Setzer, elle est un petit peu dégonflée, mais son jeu de guitare est toujours aussi époustouflant.
C'est le premier titre extrait de 40 ou 40.
40 peut-être.
Le nouvel album des Stray Cats sorti le 24 mai prochain. En concert à Tours le 6 juillet, aux Eurocaines le 7 juillet et à Musilac le 13 juillet.
On ira les voir les trois fois.
Oui, bien sûr. Programmation aussi. D'accord. Marion, avec un fusil sur la tempe. Hein. Programmation Marion Guilbeault. Bien voilà. Le NRV, première partie, c'est fini. Merci Nathalie Obadia. Merci Laszlo Nemes. On va se retrouver dans 15 minutes avec ça.
On est rentré par la fenêtre de derrière, elle était ouverte. On est tombé sur une population de pigeons morts et on s'est installé.
Arc clandestin, pas vu, pas pris. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.